êtes sur les chamallows sur l'émission Rencontre avec l'écriture. Je m'appelle Sandro.
Bonjour, je m'appelle Emma.
Bonjour, je m'appelle Émile. Nous sommes les CM de CHAM de l'école Marguerite Audoux. CHAM veut dire classe horaire aménagée musique.
Nous allons vous parler de l'écriture.
1. Écrire, c'est quoi ?
2. Rencontre avec Philippe Barbeau.
3. Nous avons écrit Tom et le monstre du lac.
Je cède la parole au groupe Écrire, c'est quoi ?
Je suis Maëlys.
Bonjour, je m'appelle Marion.
Et moi, Antonin. Bonjour à tous.
Nous allons vous parler de l'histoire de l'écriture.
Mais en fait, quel âge a l'écriture ?
L'écriture a 6000 ans. Elle est apparue pour la première fois en Mésopotamie et en Égypte.
Très intéressant. Et dis-moi, Marion, quel était le premier écrivain ?
Déjà, le premier écrivain était une femme, qui s'appelait Enedjuana. Cette femme est née il y a plus de 4000 ans, en Mésopotamie, et était célèbre pour ses 42 poèmes.
Merci les filles pour cette info au sujet des écrivains. Mais les scribes alors, qu'est-ce que c'est ?
Les scribes, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, étaient les seules personnes qui savaient écrire. Ce sont eux qui écrivaient les textes officiels et les écrits importants.
Très bien, maintenant nous allons passer le micro à Bastien, Gabriel et Vincent.
Ils vont répondre à la question qui nous brûle les lèvres. Qu'est-ce que l'écriture ?
Bonjour, je m'appelle Gabriel.
Bonjour, je m'appelle Vincent.
Bonjour, je m'appelle Bastien.
On va vous parler de l'écriture en elle-même et de ses fonctions. La définition de l'écriture. Écrire, c'est faire une œuvre d'écrivain, un métier de rédacteur.
On a été demandé aux personnes de l'école ce qu'ils pensaient de l'écriture.
Bonjour, je m'appelle Vincent.
Bonjour, je m'appelle Agira.
Pour vous, écrire, c'est quoi ?
C'est exprimer ses émotions sur un bout de papier.
Bonjour, je suis Madame Réti. Pour moi, écrire, c'est partager. Partager une histoire, des émotions, des sentiments. Et une des meilleures façons que les hommes ont trouvées pour faire partager ces émotions, ces histoires, eh bien, c'est d'écrire.
Bonjour, je m'appelle Kaina.
Bonjour, je m'appelle Gina.
Pour vous, écrire, c'est quoi ?
Moi, ça me soulage.
Moi, ça me fait mal aux doigts.
Bonjour, je m'appelle Timothée.
Pour toi, écrire, c'est quoi ?
C'est faire un geste avec un crayon qui forme une lettre.
Bonjour, moi je suis Monsieur Rocheron. Alors, vu que je suis enseignant, pour moi, écrire, ça commence avec les CE1, donc c'est l'apprentissage du code. On apprend à former les lettres, on apprend à structurer ses phrases et à respecter tout un tas de règles. Et après, ça sert à s'exprimer. Donc, tout ce qu'on peut dire, on peut aussi l'écrire.
Bonjour, je m'appelle Monsieur Noumaro. Alors pour moi, écrire, c'est s'évader. Ça permet de mettre en mots des émotions ou des sentiments qu'on n'oserait pas forcément dire à l'oral.
Bonjour, je m'appelle Emma.
Bonjour, je m'appelle Valentin.
Bonjour, je m'appelle Marion.
Pour vous, écrire, c'est quoi ?
C'est quelque chose qu'on aime bien.
C'est bien.
Bonjour, je m'appelle Chaynaise.
Pour toi, écrire, c'est quoi ?
C'est tout.
C'est-à-dire ?
C'est tout. On peut tout faire avec écrire.
Bonjour, je m'appelle Marion. Pour moi, écrire, c'est plusieurs choses. Écrire, c'est pour transmettre une émotion, un sentiment, comme les lettres d'amour, comme les lettres aux gens qu'on aime. C'est également laisser une trace, Sans les écrits historiques, on ne comprendrait pas notre histoire. C'est aussi communiquer avec les autres, l'écriture, ça nous permet de communiquer. Et puis, grâce à l'écriture, on peut raconter des histoires, inventer des histoires, en écrire aussi. Donc, c'est plein de choses à la fois.
Bastien, Vincent, pourquoi les auteurs écrivent ?
Pour être lus, pour prendre du plaisir, pour se libérer des sentiments, pour raconter des histoires.
Pour faire ressentir des émotions, et pour laisser une trace d'eux aussi. Nous allons vous laisser en compagnie de Clément, Jonathan et Arman, vous parler de la rencontre avec Philippe Barbeau.
Vous êtes toujours sur le Chamallow et l'émission Rencontre avec l'écriture. Philippe Barbeau est né le 16 juin 1952 à Blois. Il est un écrivain pour la jeunesse.
Il a été aussi conteur pendant plus de 20 ans. Il a écrit plusieurs livres dont
Peur sur la route, L'odeur de la mer et La Gardélienne.
Lulia, Adèle et Agira vont vous accueillir pour parler de son métier d'écrivain et son talent de conteur.
Barbeau, un écrivain qui n'aime pas écrire.
Bonjour, je m'appelle Agira.
Bonjour, je m'appelle Adèle.
Bonjour, je m'appelle Lulia. Vous êtes toujours sur les Chamallows.
Le vendredi 25 mai 2018, nous avons rencontré M. Philippe Barbeau. Comment l'a-t-on invité déjà, Agira ?
Nous lui avons écrit une lettre et en plus, il nous a répondu.
Quand il est venu en classe, nous lui avons posé des questions et voilà ce qu'il nous a répondu.
Qu'est-ce qui vous a mené à écrire Peur sur la route ?
Une rencontre. Enfin, disons que si tu veux, faire un roman sur l'Exode. Et puis un jour, je vais à un salon du livre où se trouvaient deux de mes amis écrivains. Il y en a un qui s'appelle Christian Grenier et l'autre qui s'appelle Christian Léourier. Voilà. Et Christian Grenier, c'est un peu mon grand frère d'écriture. Si je suis avec vous, c'est en partie grâce à lui. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et Christian, on se connaît bien, on est copains proches. Et Christian, il connaissait la guerre des lianes. Et Christian Léourier, qui était à côté de lui, Christian Grenier me dit, tiens, Christian qui est à côté, là, c'est deux Christian, donc c'est pas simple. Mais Christian qui est à côté, il crée une collection chez Nathan qui va s'appeler « Les romans de la mémoire ». Et tu as écrit « La guerre des lianes », je suis sûr que ça l'intéresserait. Et Christian Léourier me dit « Ah ouais, ça m'intéresserait que tu bosses pour moi ». Et il m'a dit « Est-ce que tu as un sujet ?» Je lui ai dit « Oui, l'Exode ».« Ah ouais, très bien, on n'a rien ».
Que sont devenus Lucienne et Marcel dans « La guerre des lianes » ?
Ils sont décédés tous les deux aujourd'hui, mais ils ont grandi, ils ont eu des enfants. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Lucienne, Lulu, elle en a eu 10. Plus que ma maman, puisque moi, je suis le 9e enfant de mes parents. Marcel, lui, il a eu 6 enfants. Ce sont mes cousins, mais malheureusement, les grosses familles, on se perd de vue assez rapidement. Donc, en fait, je les croiserai dans la rue. Certains, je les reconnaîtrai, mais les autres, tu vois, c'est normal. Ce sont les grosses familles. Il y a un moment, on se perd de vue.
Dans Peur à Jacatra, est-ce que Serge Prudhomme est de la famille d'Éliane Prudhomme ?
Alors, pas du tout, c'est un homonyme d'un fils de Marcel, qui s'appelait Serge Prudhomme. Mais vous savez, moi ma femme s'appelle Nicole Dufour, j'en connais 7 des Nicole Dufour. Il y a des noms très communs. Et puis, il y en a certainement plein d'autres, parce que l'autre jour, on était à Besançon dans un magasin, et puis le gars tape sur son clavier, et il dit « Ah, j'ai trois Nicole Dufour ». Alors, ces deux-là, je ne les connais pas. Vous voyez, on pourrait monter à neuf. Hein. Non, il y a des noms qui sont très communs. Moi, par exemple, moi, si vous allez sur Internet, vous tapez Philippe Barbeau. Tout ce qui concerne la littérature de jeunesse, c'est moi. Mais par contre, tout ce qui concerne les films, la prise de son animalière, ce n'est pas moi, c'est un homonyme. C'est par exemple Le Peuple Migrateur. Vous verrez, il y a marqué bande-son Philippe Barbeau. Ben, ce n'est pas moi. Hein ? C'est un monsieur que je ne connais pas. Il y a de temps en temps des gens qui se trompent, qui s'adressent à moi croyant que c'est lui. Donc à chaque fois, je leur dis « bah non ». Je leur dis « cherchez ailleurs ». Voilà, et ça arrive. Hein. Voilà. Bon, après, vaut mieux s'appeler... bon, moi, là, c'est flatteur. Si vous avez le même nom qu'un assassin, c'est un peu moins flatteur. Hein. Puis ça peut vous attirer de très graves ennuis. Hein. Voilà. C'est, par exemple, une fois, un ami qui m'a raconté ça. Une de ses amies est allée à Bruxelles, dans une chambre à Bruxelles, d'hôtel, hein, elle était dans sa chambre, et d'un seul coup, à 3h du matin, là, la porte a explosé, des mecs en noir se sont précipités sur elle, l'ont ficelé et tout, et l'ont embarqué, et en fait, ils l'avaient prise pour une terroriste, c'était une homonyme d'une terroriste.
Est-ce que Eliane a vécu la Seconde Guerre mondiale ?
Je suis né en 1952, donc d'après toi, est-ce qu'elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale ? Bah oui, si, moi je suis né en 1952. Par contre, il y a une scène qui est parfaitement vraie. Vous savez, à un moment, alors ça dépend où vous en êtes dans la lecture, mais vers la fin, à un moment, la famille s'est réfugiée dans une ferme. Et dans cette ferme, il y a un petit garçon qui va aller jouer avec une poule. C'est une ferme abandonnée, il n'y a plus que le bétail. Et il va aller jouer avec une poule. Et là, les Stuka attaquent. Et il y a, la famille est réfugiée dans la ferme. Et puis il y a ça faudra pas le mettre hein, dans l'interview, il faudra couper. Hein. il y a aussi des soldats qui sont réfugiés dans cette ferme, des soldats français. Et en fait, il y en a un qui la maman qui va aller chercher son fils pour essayer de le sauver. Et il y a un soldat qui la retient et qui lui dit « N'y allez pas, sur un enfant ils tireront peut-être pas, mais sur une femme ils tireront. » Et en fait, ce soldat, il a certainement sauvé ma maman. Et ils n'ont pas tiré sur mon frère, c'est mon frère Luc, ils n'ont pas tiré sur lui.
Est-ce que le café de Marcel est réel dans Peur sur la route ?
Alors non, il n'est pas réel du tout. C'est un café que... Non, je l'ai imaginé dans la rue du Bourgneuf. Hein ? Pourquoi là ? Tout simplement parce que j'avais un de mes copains qui habitait là. Tu vois, c'est un petit clin d'œil à ce copain-là. Dans ce coin-là, il habitait dans ce coin-là. Je ne sais même pas s'il y a un café où je le situe. Hein? Mais un écrivain, il est là pour... un écrivain, il est là pour mentir et dire la vérité en même temps. Hein? Et donc, moi, je parle de l'Exode. Je raconte quelque chose qui peut tout à fait être vraisemblable. Enfin, qui est vraisemblable, mais je m'appuie sur des faits réels, mais après, je mens, entre guillemets, en reconstituant des choses pour éviter, tu vois, que en reconstituant des choses pour adapter à mon histoire. Hein. J'aurais peut-être pu avoir un problème, on ne sait jamais, avec les anciens propriétaires de ce café, s'il existait encore, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc là, je l'ai inventé. Je l'ai situé là. C'est plausible, très plausible, il y en a dans le secteur.
Qui est Eliane par rapport à vous ?
Voilà la question, donc c'est ma maman. C'est ma maman, moi je suis son 9e enfant. Et en fait, Eliane, elle s'est mariée avec Pierre, donc qu'on retrouve dans la famille. Vous avez vu dans Peur sur la route que Pierre n'est pas à la guerre, alors que normalement il aurait dû être mobilisé. Or, ma maman... Si vous lisez la suite, si vous lisez Le bonheur d'Eliane, vous verrez, ma grand-mère vient s'installer pour essayer de refaire sa vie dans le Bourg Saint-Jean. Hein, et en fait, dans le Bourg Saint-Jean, là, elles sont très, 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 très pauvres, extrêmement pauvres. Et il y a des bonnes sœurs qui viennent les aider.
C'est les seuls qui les aident, tu vois, qui aident la famille. Et donc, à un moment, il y a une bonne sœur qui dit à ma maman, qui a une douzaine d'années, elle lui dit, mais tu pourrais te marier avec Dieu, c'est-à-dire devenir bonne sœur. Et maman lui dit, non, je ne me marierai pas avec Dieu, je me marierai avec un homme de chair, et avec lui, j'aurai 6 enfants pour pas qu'il parte à la guerre. Et ma maman a eu 6 enfants pour pas qu'il parte à la guerre, réellement, pour que son mari parte pas à la guerre, elle en voulait 6. Après, il y en a eu 3 de plus, mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Mais mon sixième frère, Jean-Pierre, était né en mars 1939.
Surpris sur la route, est-ce une histoire vraie?
Alors non, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une histoire imaginée, mais tout à fait plausible. Très peu de mes... Bon, il y a la série des Elianes qui sont une histoire vraie. Après, il y a d'autres livres qui sont très très proches de la vérité, beaucoup plus proches que Peur sur la... Enfin, de la vérité avec des personnages vrais. Hein. Par exemple, mon prochain à sortir, j'ai reconstitué une scène... Qui est complètement imaginaire, mais ça repose sur des événements parfaitement vrais. Elle aurait pu se produire, cette scène. Tu comprends ? Dans Peur sur la route, ça peut se produire, mais c'est imaginaire. Par contre, il y a des choses... Enfin, je me suis appuyé réellement sur des choses vraies. Par exemple, le massacre à Montrichard par le bombardement du champ de foire à Montrichard, c'est hélas parfaitement vrai. Hein ? Il y a dans Peur sur la route, la voiture volée, vous savez, avec Paul. Bon, la voiture volée, c'est parfaitement vrai. C'était pas une 301, c'était une 202. Mais c'est arrivé à des cousins de mon ex-femme de la région de Pithiviers. Hein? Voilà, donc tu vois, l'écrivain, il prend des trucs comme ça, et puis après, il écrit une histoire. Mais mon histoire, elle est tout à fait plausible.
Est-ce votre mère qui vous a incité à écrire La guerre des lianes ?
Pas du tout. Au contraire. Parce que tu vois, l'idée de La guerre des lianes, je l'ai eue en 1983. Et en fait, j'accompagnais ma mère. Chaque année, c'était soit un de mes frères, soit ma sœur, soit un de mes neveux ou une de mes nièces qui emmenait ma mère sur la tombe de son père à Verzenay. Et cette année-là, c'était moi. Et cette année-là, elle m'a dit « Ah, j'aimerais qu'on aille à Verdun ». Donc, on est allé à Verdun. On est allé à Verdun, et à Verdun, on est allé à Douaumont. Douaumont, c'est une partie du champ de bataille de Verdun, une partie très, très importante. Là, il y a un énorme cimetière avec 25 000 tombes. 25 000 tombes, c'est la moitié de tous les habitants de Blois aujourd'hui. Hein ? C'est énorme, mais c'est un cimetière. Un cimetière, c'est pas très parlant. Et puis après... Quand on est allé voir l'ossuaire. L'ossuaire, c'est un grand bâtiment qui est fait en hommage aux soldats qui sont morts là. Ça ressemble à une espèce d'église ou de mosquée. Enfin, c'est un truc entre les deux. Hein, mais c'est pas du tout religieux. Tu comprends ? C'est fait pour tout le monde, y compris ceux qui n'avaient pas de religion. Et quand tu passes derrière l'ossuaire, qu'est-ce que tu entends dans ossuaire ? Os. Et en fait, quand tu vas derrière des vitres, quand tu vas derrière le bâtiment, dans les vitres, il y a derrière des vitres, c'est-à-dire dans le sous-sol de l'ossuaire, il y a les restes de 130 000 soldats qui ont été retrouvés en petits bouts, donc impossibles à identifier. Tu vois ? Et ces 130 000 soldats, c'est 2 fois et demi la ville de Blois, tous les habitants. Et là, quand j'ai vu tous ces os, là, il n'y a plus d'uniforme. On ne sait pas lesquels sont français, lesquels sont allemands. Il n'y a plus de couleur de peau. Hein ? Parce que là, il y a des blancs, mais il y a aussi tous les soldats des colonies françaises. Par exemple, il y a des fois certains qui se prétendent français, drapeau bleu, blanc, rouge et tout, hein, et puis qui clament très fort la Marseillaise. Ils trouvent qu'il n'y a que les blancs qui sont bien. Ça m'énerve profondément. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fort de Douaumont, hein, il a été repris. Par un régiment de tirailleurs sénégalais. Et si on les envoyait devant, eux, c'est parce que c'était très, très dangereux. C'était ce qu'on appelait de la chair à canon. Hein, il y avait les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs marocains, les bretons aussi, on les envoyait pas mal devant, et puis les russes aussi. Hein, et en fait, voilà. Donc là, il n'y a plus... Ce sont que des restes d'hommes qui sont morts pour rien. Et là, j'ai imaginé tous les enfants. Alors, évidemment, il n'y a pas que des hommes qui avaient des enfants, là. Hein, puisque par exemple, moi, dans un autre cimetière, il y a un oncle de ma mère, j'en parle dans la guerre des lianes, c'est, je sais plus son prénom, Girard, mince, je sais plus, vous le chercherez. Hein, eh bien, lui, il est mort à 20 ans, donc malheureusement, il n'a pas eu le temps d'avoir des enfants. Hein, il est dans un cimetière à côté de Pont-à-Mousson. Et donc, ses enfants, enfin, là, j'ai imaginé tous ces gosses qui avaient perdu leur père à cause de ça. Et j'ai dit à maman, je vais écrire ton histoire, parce que moi, je la connaissais, l'histoire. Maman me la racontait souvent. Hein. Moi, j'habitais en bas des allées. La maison, malheureusement, a été rasée, donc elle n'existe plus maintenant. Mais j'habitais en bas des allées, au niveau des usines d'air équipement. Et tu vois, souvent, elle me racontait des histoires, parce qu'il y avait un moment, je crois qu'on aimait tous les deux. Elle reprisait les chaussettes, parce qu'à cette époque-là, on jetait pas grand-chose. Hein. Donc, elle reprisait les chaussettes, elle reprisait les chemises, elle reprisait les pantalons. Elle était à côté de sa fenêtre. Et pendant qu'elle reprisait, moi, je la coiffais. Voilà. Et là, elle me racontait. Et là, elle m'a raconté plein de fois sa vie, mais c'était la pagaille dans ma tête. Donc, j'ai dit, est-ce que tu peux me faire un cahier? Elle m'a fait un cahier, mais elle m'a dit, tu sais, moi, je te le mets, mais alors, ça n'intéressera jamais personne. Et heureusement, je ne l'ai pas écouté.
Depuis combien de temps écrivez-vous?
Alors, j'écris depuis novembre 1979. Donc, ça fait... ça va faire au mois de... Enfin, ici, là, ça va faire bientôt 39 ans. Hein, ça fait 38 ans, 38 ans et demi, et bientôt 39. Ça fait longtemps. Hein.
À quel âge vous avez écrit votre premier livre?
Alors, j'ai écrit mon premier livre assez tard, à 27 ans. Ma première histoire à 27 ans, mais mon premier livre publié, je l'ai écrit à 30 ans. C'est très tard. Hein. La plupart de mes copains écrivains écrivaient à ton âge ou plus jeune que toi. Ils rêvaient d'être écrivains, mais moi, pas du tout.
Monsieur Philippe Barbeau est un écrivain qui n'aimait pas écrire ni lire et déteste encore aujourd'hui le français. Si vous aviez vu ses notes d'orthographe en troisième, vous auriez été surpris qu'il soit devenu écrivain.
Il est aussi un très bon conteur. Quand il est venu, il nous a fait beaucoup rire avec sa reine des limaces et son type qui ne sait pas aimer, sourire et rêver. Mais il a arrêté d'être conteur le 23 mai 2018 car il avait trop de travail et avait le trac.
Moi, j'ai beaucoup aimé le voir parce qu'il nous a fait rire et il nous a raconté beaucoup de ses histoires d'école. Et voilà.
Moi, j'ai aimé parce qu'il était sympa et il nous a fait beaucoup rire.
Moi, j'ai aimé parce qu'il était gentil et il nous a fait rêver. On va laisser la parole à
Aïcha, Imen et Lily.
La guerre des lianes et peur sur la route. Bonjour, je m'appelle Aïcha et je suis avec Lily et Imen. Nous allons vous présenter deux romans de Philippe Barbeau. Nous les avons étudiés en classe et chez nous. Maintenant, Imen va vous présenter La guerre des lianes.
Comme Aïcha vous l'a dit, je m'appelle Imen et je vais vous présenter La guerre des lianes. La guerre des lianes est un roman sur la Première Guerre mondiale où l'héroïne de l'histoire est la mère de Philippe Barbeau. Ce roman a été écrit en 1998. Il parle d'une enfant qui va avoir une petite sœur le jour où son père part à la guerre. À présent, Lily va vous présenter Peur sur la route, qui est le deuxième roman que nous avons étudié.
Peur sur la route est un roman qui parle d'un petit garçon prénommé Georges. Il y a la guerre, du coup, il y a l'exode. Il doit fuir sa ville, Blois. Il doit aussi quitter sa mère, Janine. Le livre a été édité en 2004.
Dis-moi, Imen, qu'est-ce que l'exode?
Eh bien, Aïcha, l'exode, c'est quand beaucoup de personnes fuient en même temps.
Paolo et Rudy vont poursuivre avec Tom et le monstre du lac.
Thank you.
Écrire des histoires, ça a l'air facile comme ça. En septembre 2017, nous avons écrit l'aventure de Tom. Ça faisait 3 pages à peine. Pendant l'année, nous avons écrit plein de choses. Des comptes rendus de sortie, des résumés, des récits de vie dans notre cahier d'écrivain, des affichages, des exposés et nous avons beaucoup lu aussi, en classe et chez nous. En avril 2018, la maîtresse nous a fait relire l'aventure de Tom et ça nous a paru pas terrible.
Alors on a décidé de l'améliorer, ça nous a demandé du temps et beaucoup de corrections. On s'est partagé le travail. Aujourd'hui, notre histoire est terminée. Elle s'appelle Tom et le monstre du lac. On espère qu'elle va vous plaire. Mais soyez indulgents, nous ne sommes que des graines d'écrivains.
On va laisser la parole à Luan Tiziri et Oumaima sur les extraits de Tom et le monstre du lac.
Sur les chamallows, je m'appelle Luer.
Bonjour, je m'appelle Tiziri.
Bonjour, je m'appelle Oumaima et nous allons vous lire 3 extraits de notre roman. Tom est le monstre du lac. Il y a longtemps de cela, au bord d'un lac, un garçon nommé Tom vivait paisiblement avec ses parents dans une petite maison. Surnommé Tom le courageux par ses amis, cet enfant de 10 ans allait à l'école en CM2. Brun aux yeux bleus, il se distinguait par une tache de naissance qui ressemblait à une cicatrice sur le poignet gauche. Il était très proche de ses parents, qui le qualifiaient de gentil, intelligent, drôle et courageux. Tom avait également des grands-parents qui vivaient au village voisin.
En deuxième, je vais vous lire le début de la bataille avec le monstre. Plus loin, ils entendirent un ronflement. Ils s'approchèrent doucement. Le monstre était là. Il dormait, mais Tom glissa alors sur un os et tomba dans un grand fracas. Bien entendu, le monstre se réveilla et, furieux, cracha de la superglue que Tom esquiva de peu. Mais la créature le saisit alors. Avec ses longs bras, le garçon se débattit et planta son épée qui glissa et tomba par terre.
En dernier, je vais vous lire la fin. Tom se réveilla dans le présent. Avec le mage, il retourna à la grotte avec un sérum de résurrection. L'île avait fabriqué à base de sauce tomate et d'eau de javel. Ensuite, Tom vaporisa la potion sur la blessure du monstre au niveau du cœur. Celui-ci se réveilla et, ému, les remercia. Cependant, il était un peu vénère et voulut avoir quelques explications. « Pourquoi vous m'avez zigouillé? Ça se fait pas !»« Ouais, bon, ok. Mais on t'a ressuscité, non? Et en plus, je t'ai même trouvé un job. »« Ah bon, lequel? Tu vas bosser dans une boutique de doudou !» Grave content, le monstre devint leur meilleur pote et ils vécurent tous trop heureux avec plein de petits doudous.
Barbeau, vous êtes un écrivain qui n'aime pas écrire.
Pourtant, on aime bien vous lire.
C'était les chamallows. Au revoir!
Thank you.